France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, 2019 célèbre, vous le savez, Berlioz, archétype du compositeur romantique. De romantisme, il en est aussi question dans une impressionnante exposition qui se tient entre le Petit Palais et le Musée de la vie romantique à Paris jusqu'au 15 septembre. Intitulée « Paris romantique 1815-1848 », elle restitue l'effervescence artistique singulière qui s'est emparée de la ville et a touché toutes les disciplines, littérature, peinture, mode, théâtre et bien sûr musique. Pour feuilleter le superbe catalogue qui accompagne cette exposition, je reçois Cécile Reynaud, commissaire pour la partie musicale de cette exposition. Leslie Howard au piano, c'était Das Wandern, le premier lied de La Belle Meunière de Franz Schubert, transcrit par Franz Liszt. Bonjour Cécile Reynaud.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'EPHE, l'école pratique des hautes études, et je l'ai dit en introduction, vous êtes commissaire pour la partie musicale de cette exposition, immense exposition, superbe exposition qui se tient à Paris. Paris romantique 1815-1848. Avant de rentrer dans le catalogue, de feuilleter le catalogue, peut-être donner quelques indications sur cette exposition qui est géographique. En fait, on circule essentiellement au Petit Palais à travers Paris. Il y a différents quartiers de Paris qui ont été vraiment cernés parce qu'il s'y passe quelque chose de particulier. C'est donc une déambulation à travers le Paris romantique que propose cette exposition, Cécile Reynaud.
Oui, exactement. Il s'agissait pour les commissaires de l'exposition de montrer aussi comment Paris évolue, comment l'architecture de la ville, la configuration de la ville évolue entre 1815 et 1848. Et donc, une promenade dans les différents quartiers de Paris était propice à montrer cette évolution. Alors, il y a plusieurs parties. Certaines sont topographiques, on peut dire. Évidemment, sont l'occasion de montrer des bâtiments, du mobilier, de la peinture, de la musique. Et d'autres sont plus thématiques, disons. Donc, l'exposition s'ouvre sur une évocation des Tuileries.
Le pouvoir, le siège du pouvoir.
Des Tuileries, oui. Le siège du pouvoir, exactement. Mmh. Puis, nous passons au palais royal, c'est-à-dire le quartier du luxe, de la mode, des magasins, au début de la période, encore en 1815, autour de 1830, cela va changer. Et du Palais Royal, le visiteur est amené ensuite au salon, c'est-à-dire au Louvre, où il découvre ce que pouvait être à l'époque la représentation du salon de peinture au Louvre, dans le salon du Louvre, donc. Après cela, s'ouvre une partie plus thématique qui traite des révolutions. Et il s'agit essentiellement là de la révolution de 1830, que l'on a voulu aborder par l'évocation des rues de Paris, des barricades, de l'évocation du pouvoir, mais également de deux grandes révolutions artistiques de 1830, qui sont d'une part pour le théâtre Hernani de Victor Hugo et d'autre part pour la musique, la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Donc là, c'est la partie 1830, à laquelle fait pendant une autre partie thématique, disons, sur Notre-Dame et toute l'évocation du gothique et de ce que Notre-Dame a pu évoquer dans l'imaginaire des romantiques, pour ensuite arriver vers la partie des grands boulevards, c'est-à-dire la partie des théâtres et de l'opéra.
Oui, partie des théâtres, de l'opéra, et puis aussi ce quartier un peu nouveau qui est resté aujourd'hui vraiment tel qu'il était, c'est le quartier de la Nouvelle Athènes, où se passe vraiment tant de choses d'un point de vue artistique, et du piano, des salons. C'est pour ça que j'ai choisi du Liszt pour commencer cette émission, oui, Cécile Reynaud.
Voilà,
ouais.
Nous sommes passés par-dessus, mais évidemment, avant les grands boulevards, on passe par le quartier de la Nouvelle Athènes, et en particulier, on évoque le square d'Orléans, où était regrouper un certain nombre d'artistes, de pianistes en particulier. On peut penser à Chopin, à Georges Sand, à Alcan, à Zimmermann.
Oui, ce quartier qui est resté intact quasiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se promène dans ce quartier autour de Notre-Dame de Lorette et tout ça, le quartier a à peine bougé. On est tout de suite transporté au 19e siècle, dans ce Paris romantique. Ouais.
C'est un des quartiers effectivement le mieux préservé de ce Paris du 19e siècle, et il ne faut pas oublier qu'une partie de l'exposition sur les salons romantiques se situe au musée de la vie romantique, qui est en plein cœur de cette Nouvelle Athènes.
Oh,
Françoise Paulet, Anne-Sophie Fonauteur, accompagnée au piano par Kurt Garben. C'était Hélène, extrait des 9 mélodies de 1928 d'Hector Berlioz. Cécile Reynaud, j'ai évoqué la figure de Berlioz en introduction, évidemment, qui parle de Paris, de romantisme. On ne peut évidemment pas écarter la figure de Berlioz. Vous avez mentionné la Symphonie Fantastique, créée l'année après la composition de ces 9 mélodies, donc en 1830. Que représente musicalement Berlioz dans ce Paris romantique? Est-ce que c'est vraiment une figure essentielle? Est-ce que c'est vraiment un phare dans ce Paris romantique?
On peut dire que Berlioz, qui est arrivé de sa province, en fait, il est isérois, pour Paris, il y est venu pour faire des études de médecine, mais il se consacre à la musique très vite et très rapidement, il va fréquenter tous ces milieux de l'intelligentsia romantique, disons, parisienne. Et il est présent à Paris, bien sûr, au moment de la Révolution de Juillet, révolution qui accompagne ce mouvement romantique, ou plutôt on peut dire peut-être que le mouvement romantique accompagne cette révolution et traduit aussi une effervescence des esprits, de la création, de l'inventivité. Et il faut bien noter aussi que la première symphonie de Berlioz va rester son œuvre la plus connue comme étant la plus révolutionnaire et d'avant-garde, sans doute. Donc il représente effectivement, du point de vue de la musique, en 1830, autour de 1830, un langage orchestral nouveau, un rapport au texte, enfin littéraire aussi nouveau, qui fait que Berlioz est aussi un musicien écrivain qui accompagne sa musique de textes littéraires.
Cécile Reynaud, vous avez mentionné cette effervescence artistique donc dans toutes les disciplines, donc qui se saisit de la capitale de Paris. Est-ce qu'il y a des éléments, des facteurs politiques qui ont donné l'impulsion à ce mouvement? Est-ce que justement la chute de l'Empire, date à laquelle commence cette exposition, 1815, a donné justement cette impulsion? Est-ce que ça a été un élément favorable au développement artistique dans tous les domaines artistiques, industriels de cette ville?
Certainement, ce qu'on appelle l'avènement de la monarchie bourgeoise en 1830, la monarchie de Juillet, favorise un essor de cette nouvelle classe, disons, de la classe de la bourgeoisie, qui se traduit par une inventivité renouvelée, un désir d'invention, un désir de richesse. Il faut relire évidemment Balzac et la Comédie humaine, qui sont longuement évoqués dans l'exposition. Le « À nous deux, Paris » de Rastignac, qui montre ce défi que Paris pose à la jeune âme romantique. Et donc oui, ce Paris de 1830 est une sorte de défi pour les artistes qui s'y présentent. Pour les musiciens, par exemple, Paris est la capitale de la production musicale en Europe. C'est là qu'on trouve les plus grandes scènes d'opéra. C'est là que l'on trouve l'animation la plus grande autour des concerts des virtuoses. Je pense aux pianistes, évidemment, mais pas seulement. Les violonistes, les violoncellistes s'y produisent. Et si l'on n'est pas passé par Paris à l'époque, quand on est un virtuose, un compositeur européen, on n'a pas encore réussi, disons, l'essor de sa carrière.
Ce qui explique donc le défilé de tous ces grands artistes, compositeurs, virtuoses. On a cité évidemment Chopin, Liszt, mais d'autres qui vont nourrir cette vie musicale parisienne.
La vie musicale parisienne, en effet, se nourrit de virtuoses produits en France, en particulier par le Conservatoire de Paris, qui a été créé en 1795, quelques 35 ans avant. Mais elle se nourrit beaucoup, par exemple, pour le piano, de tous les virtuoses allemands qui arrivent à Paris, Kalkbrenner, Döhler et d'autres, qui sont d'ailleurs de passage souvent à la Nouvelle-Athènes, au square d'Orléans, et se produisent dans des concerts nombreux dans la capitale. Il ne faut pas oublier aussi que dans cet essor, dans cet essor des inventions dans les instruments, pour les instruments de musique, cela se traduit aussi par un grand essor des facteurs de piano. On a pu appeler Paris à l'époque Pianopolis, c'est-à-dire la ville du piano, la capitale du piano. Et de très nombreux facteurs de piano investissent la ville. Enfin, l'instrument est nouveau, il devient l'instrument roi de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il a des capacités de rassemblement, disons, du répertoire. On peut, au piano, réduire une partition symphonique, d'orchestre, on peut jouer les airs d'opéra les plus connus. Et donc, les plus grands virtuoses défilent à Paris dans des salles de concert très diverses. Et ça aussi, un des défis de Paris, c'est pouvoir se produire dans tous ces types de salles qui y existent, depuis les salons privés. On évoque dans l'exposition, par exemple, le salon des Rothschild, où Chopin se produira. Il était aussi le professeur d'un certain nombre de membres de la famille Rothschild, mais bien d'autres salons de la bourgeoisie et de la noblesse. Il y avait aussi les salons des facteurs de piano, si on pense aux deux principaux facteurs de l'époque, qui sont Erard et Pleyel. Erard et Pleyel qui étaient des fabricants de piano, des inventeurs, pour faire progresser l'instrument piano, avait décidé d'avoir des salons, des salles de concert attenant à leur fabrique de piano. Ce qui leur permettait évidemment de faire connaître leurs instruments, de les faire entendre. Et Chopin était un artiste lié à Pleyel, tandis que Liszt était connu pour être un artiste lié à Erard.
Thank you.
Philippe Martin au piano, c'était un des nocturnes caractéristiques opus 45 de Henri Hertz, nocturne intitulée La Mélancolina. Cécile Reynaud, Henri Hertz, 1803, donc vraiment contemporain de Berlioz et puis de la génération des romantiques postérieurs, les Chopin, Schumann et tant d'autres. On a parlé donc de ces salons. Et puis, cette figure de Henri Hertz m'évoque un des portraits charges absolument irrésistibles de Jean-Pierre Dantan. Il y en a plusieurs hein, dans cette exposition. On le voit avec son frère Jacques en train de se bagarrer contre un clavier. Il y a un portrait de Liszt qui est réduit à une sorte d'épaisse chevelure qui est absolument irrésistible. La musique est vraiment très présente quand même dans cette exposition. Il y a une belle présence dans la musique. On voit aussi un piano, évidemment les portraits de Liszt, on voit aussi Berlioz bien sûr, mais la musique est très présente quand même dans cette exposition, ce qui est, il faut le dire quand même malheureusement, assez rare.
C'est assez rare, mais pour évoquer Paris, enfin romantique, il était inévitable, nécessaire, disons, que la musique soit là. Si on pense à sa présence dans les salles de concert, pas oublier que Paris avait la meilleure salle de concert de toute l'Europe. Enfin, c'était la salle des concerts du conservatoire. Avec une acoustique unique, au dire de tous les musiciens d'Europe, les maisons d'opéra, l'orchestre de la Société des conservatoires, très réputé, qui jouait, enfin Beethoven et des musiques d'avant-garde, disons. Tous les salons, les professeurs du conservatoire qui se produisaient. Donc, et il faut bien voir aussi que dans les représentations picturales ou de sculptures, la musique est très présente à l'époque. Donc, vous avez parlé des portraits de Lehmann, de Liszt, de Marie Dagout. Ouais. Mais on a aussi, en effet, toute cette collection magnifique des statuettes qui sont conservées au musée Carnavalet, de la collection d'antan, qui représente évidemment bien plus que des musiciens plus largement, mais dans la partie consacrée à la Nouvelle Athènes, où les salons de musiciens étaient si présents, nous avons voulu rendre présents aussi ces compositeurs et ces virtuoses par le biais des statuettes de Jean-Pierre Dantan. Et en effet, il y a au moins deux pianistes dont les représentations sont vraiment très intéressantes sur la perception que l'on avait de la virtuosité à l'époque, puisque les frères Hertz, Liszt, apparaissent véritablement en lutte avec leur instrument. On a l'impression qu'ils essayent de le dominer, mais qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont y arriver.
Il y a un côté athlétique dans leur travail.
Et un côté presque magique du piano, qui devient comme une sorte de force vive, de force vivante, qui est un vrai obstacle pour le pianiste. Il y a des textes d'ailleurs de caricature à l'époque, que ce soit de Berlioz, de Henri Heine, qui décrivent le piano comme un être animé d'une force un peu maléfique contre lequel le compositeur, l'artiste doit lutter. Et donc cela se traduit parfaitement bien dans les statuettes de Dantan qui sont présentes dans cette partie de l'exposition. Si on regarde la statuette de Paganini, c'est exactement pareil. Elle est torturée à un point incroyable et on comprend ce que lui coûtait d'efforts, de douleur et de génie, la composition et le jeu au violon.
Extrait de Gisèle d'Adolphe Adam. C'était l'apparition de Gisèle, l'orchestre royal de Covent Garden, dirigé par Richard Boninge. Cécile Reynaud, pour terminer l'évocation de cette superbe exposition et de son catalogue, Paris romantique 1815-1848, le ballet, on a parlé un peu de l'opéra, c'est aussi l'époque donc du grand opéra à Paris.
C'est l'essor du grand opéra, bien sûr, et en liaison avec cette forme nouvelle, disons, le ballet fait une apparition obligatoire, disons, dans le grand opéra. Et cela est évoqué dans la dernière partie de l'exposition, qui évoque d'abord les boulevards avec la présence des théâtres, en particulier donc la présence de l'Opéra Comique, de l'Académie Royale de Musique, du Théâtre Italien, où bien sûr sont évoqués en premier chef Rossini, Meyerbeer avec Robert le Diable,
oui,
qui
fait,
a
oui.
de nombreuses apparitions, puis le ballet avec les représentations de plusieurs danseuses, en particulier Carlotta Grisi, dont on a un portrait, Fanny Elsler également, dont on a plusieurs portraits.
Peut-être juste pour terminer, donc l'évocation de cette exposition, Cécile Reynaud, c'est qu'il faut vraiment, je tiens à le rappeler à nos auditeurs, il faut absolument y aller évidemment, mais expliquer comment les choses ont vraiment été faites de façon à ce que le visiteur ait de l'espace, peut circuler autour des œuvres, chacune des pièces thématiques, on l'a dit, est organisée avec vraiment suffisamment de volume pour pouvoir admirer les œuvres, circuler entre les œuvres. Ça a été vraiment très très bien réussi de ce point de vue-là, je trouve.
Pour une exposition qui montre des pièces sur des supports très divers, de la sculpture à la peinture, au dessin, au mobilier, aux pendules, aux manuscrits musicaux, au piano, il y a deux beaux instruments de musique.
Ouais.
Il fallait en effet de l'espace pour tourner autour de ces pièces en trois dimensions. Il fallait aussi pouvoir prendre du recul, comme se rapprocher de très près. Et l'exposition, effectivement, permet cette prise de vue, point de vue très diversifié sur les œuvres.
Exactement. Merci beaucoup, Cécile Reynaud. Je rappelle donc ces expositions qui se tiennent au Musée de la Vie Romantique et au Petit Palais jusqu'au 15 septembre. Et puis ce magnifique catalogue qui l'accompagne, vous avez été commissaire pour la partie musique. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Philippe Mercher, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.